Bonjour à chacun et chacune. Alors, peut-être ça va. Je vais continuer mon parcours de l'évangile de Marc. Et on est là dans la semaine où on fête la naissance de Jésus, en tout cas pour ceux qui le font. Et alors, peut-être on va se dire, mais est-ce qu'on peut trouver un rapport entre. Oui, il y a un rapport entre parce que Noël, c'est la première venue de Jésus, et là, il est question de sa seconde venue. Donc, ça sera un texte qui est pas facile à aborder, mais je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es venu, Seigneur, et tu reviens, c'est sûr. Et Seigneur, je te remets ce moment. Veuille me conduire, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur. Et merci de nous aider, de nous rendre réceptifs, Seigneur, pour la recevoir et pour la mettre en pratique. Seigneur, nous voulons te voir dans ta parole et merci parce que Seigneur, tu es venu pour nous parce que tu nous aimes au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc la dernière fois, Jésus était sorti du temple et on est dans la semaine sainte, peu avant sa crucifixion. Et Jésus a commencé d'annoncer les signes qui vont précéder son retour. Ça sera comme des douleurs de l'enfantement. Et vous qui êtes maman, vous avez connu l'enfantement. Il y avait peut-être une angoisse avant et après, quelle joie. Vous avez connu. Jésus donc a commencé d'annoncer les signes pour avertir son Église de tous les temps, de tous les temps, pour nous avertir et nous tenir sur nos gardes. Donc je vous propose de prendre la suite de l'Évangile de Marc. Chapitre 13, à partir du verset 14, là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Marc, chapitre 13, à partir du verset 14. Et je vais lire. Le titre de mon message, c'est « Veiller et prier ». Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Jésus donc continue d'avertir son Église après les premiers signes qu'il a donnés, qu'on a vus la fois dernière. Il continue d'avertir son Église dans quel but? Pour nous tenir éveillés, ou peut-être pour nous réveiller. Pour que nous veillons, et dans ce texte, un élément qui nous aide À veiller, c'est quoi, bien sûr? Eh bien, c'est le texte lui-même, c'est la parole de Dieu. Jésus avertit son Église pour que nous veillions à partir de sa parole. Que dit sa parole? Et c'est ce que ça sera, la parole est particulièrement dans ce message, même si c'est le cas d'habitude. Eh bien, ça sera mes trois points, ça sera le point central de chacun de mes trois points. Premièrement, sa parole nous avertit des signes des temps qui précéderont son retour. Sa parole, donc. Deuxièmement, la parole de Dieu nous montre un Dieu qui est bon et fidèle. Pourquoi? Pour nous aider à veiller dans l'espérance. Ça sera mon deuxième point. La parole de Dieu nous montre sa bonté et sa fidélité pour nous aider à veiller en espérance. Et troisième point, eh bien, sa parole nous dit encore quelque chose, nous dit comment. Comment veiller concrètement pour ne pas nous endormir? Alors premièrement, eh bien, Jésus continue donc à donner les signes de son retour. Quels seront ces signes? La parole nous avertit des signes des temps qui précéderont son retour. D'où l'importance de nous y plonger dans cette parole. Alors, après que les douleurs ont commencé, eh bien, les événements que Jésus décrit à partir du verset 14 marquent le commencement d'une grande tribulation, unique dans l'histoire du monde. Elle coïncidera avec le point culminant du mal, ce qu'on peut appeler le point culminant du mal, qui va se produire juste avant son retour, et qui est l'installation de ce que Jésus nomme l'abomination de la désolation, là où elle ne doit pas être. Jésus ne donne pas plus de précision. Là où elle ne doit pas être. Où est-ce? Alors, si on regarde les passages parallèles à ces textes, hein, où, en Matthieu et Luc, on a des indications sur le lieu géographique, justement. Matthieu 24, 15, voici ce que dit Jésus. C'est le même contexte, hein, il annonce les signes des temps. C'est pourquoi, Matthieu 24, 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, 15. Et Luc 21, verset 20, toujours le même contexte. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc on a plus d'éléments. Ce lieu saint dont a parlé Jésus, c'est en Judée. Et il est le temple de Jérusalem. Il est le temple de Jérusalem. Et l'abomination de la désolation, eh bien, c'est une expression qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, que Jésus cite, et il dit d'ailleurs que ça vient du livre de Daniel. Et on trouve cette expression dans Daniel 11, verset 31. Daniel 11, verset 31, et que je vous lis. Et des forces se tiendront là de sa part. Et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Donc référence à ce texte. Et encore dans Daniel 12, verset 11, on trouve encore une expression. Daniel 12, verset 11, l'abomination qui désole sera placée. Donc des prophéties déjà de l'Ancien, qu'on trouvait dans l'Ancien Testament. L'abomination de la désolation. On peut appeler ça le point culminant du mal dans toute l'histoire du monde. Eh bien, elle va s'installer là où elle ne doit pas être. Et pour cause, où est-ce qu'elle va s'installer, le summum de l'abomination, là, dans le lieu où est la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le temple, la présence même de Dieu dans le temple, là où elle ne doit pas être. Alors, dans ce passage, si on fait attention, ce passage a une forte connotation juive. Il est question de la Judée, aujourd'hui c'est la Palestine, au sens large. Il est question du temple. Et le figuier, la parabole du figuier, le figuier fait référence à la nation d'Israël. On l'a déjà vu. Des feuilles ont poussé, poussent et pousseront sur ce figuier avant le retour de Christ. Mais ce figuier ne donne pas encore de fruits. Si vous vous rappelez, dans Marc, verset 11, chapitre 11, ce figuier ne donne pas encore de fruits. Et si vous vous rappelez, sur la route qui allait à Jérusalem, de Béthanie à Jérusalem, Jésus avait maudit ce figuier. Il n'avait pas maudit Israël. Il avait maudit le figuier qui représenterait Israël. Mais Israël, pourquoi? Parce que Israël ne donnait pas encore de fruits. Le figuier ne donnait pas encore de fruits. En disant, Jésus a dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Marc 11, verset 14. Voyons-y donc un rapport avec Israël. Alors Jésus nous dit que... cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tous ces signes que Jésus nous a donnés se passeront en une génération. Génération, ça veut dire famille. La signification du mot, c'est, ça veut dire soit famille, soit l'ensemble des hommes qui vivaient à une même époque, qui vivent à une même époque. Et cette génération, eh bien, elle peut représenter le peuple juif. Le peuple juif qui est encore farouchement incrédule quant à Jésus, le Messie, qu'elle a rejeté. Et ils resteront incrédules jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Alors c'est vrai que l'Église a été persécutée de tous les temps. Mais ici, il y a quand même tout cet environnement juif. Alors je crois personnellement, et ça c'est ce que je crois, que Marc parle probablement ici des juifs messianiques, ceux qui sont issus du judaïsme. Puisque ces événements, ils ont lieu en Palestine. Et les persécutions ont lieu dans les synagogues. Plutôt que d'adorer l'abomination, je crois que certains juifs auront un choix à faire. Et je crois que là, certains juifs vont devenir chrétiens. Et que le moment sera venu pour eux de fuir. De fuir la Palestine, de fuir la Judée, malgré tout l'inconfort que ça va représenter pour les femmes enceintes, nous dit le texte. Dès l'apparition de cette idole, tout va aller très vite. Ceux qui travailleront dehors, donc dans les champs ou sur les toits, devront fuir sans regarder une seconde en arrière. Même pas le temps de rentrer à la maison pour prendre leur manteau, leurs affaires. Alors, certains ont interprété la grande tribulation comme étant survenue en l'an 70, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem et le Temple. Alors, ça a été une grande tribulation pour le peuple juif. Une tribulation atroce. Ils ont eu des souffrances atroces. Mais je crois que la tribulation dont parle Jésus ici, ce sera une tribulation encore plus grande. Encore plus grande. Elle sera comme jamais il n'y en a eu et comme il n'en aura jamais plus. Elle sera inégalable. Et aussi, eh bien, Jésus nous dit que tous ces signes auront lieu en une génération. Et puis aussi, eh bien, dans tous ces signes que Jésus nous donne, il y a des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Ce sont celles des versets 24 à 27 qui parlent de quoi? Qui parlent du retour de Christ qui n'a pas encore eu lieu et de l'enlèvement de l'Église qui n'a pas encore eu lieu. Nous sommes là. Et puis, surtout, eh bien, Jésus annonce que son retour sera précédé d'un temps d'angoisse pour Israël qui débutera avec l'apparition de l'Antéchrist. Et si on prend dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Paul aux deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, eh bien, c'est Jésus, l'apôtre Paul, en tout cas c'est la parole de Dieu, nous présente et nous met en garde aussi pour bien reconnaître les signes des temps. Deux Thessaloniciens 2, 1 à 4. Nous vous le demandons, donc l'apôtre Paul confirme que le temps d'angoisse pour Israël débutera avec l'apparition de l'Antéchrist. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole, ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Donc il faut, avant le retour de Jésus, il faut que ce temps arrive. Et je ne crois pas qu'il est déjà arrivé. Et puis aussi, la grande tribulation favorisera l'apparition de faux messies et de faux prophètes qui auront du succès. Tellement la détresse des gens sera grande, ils auront du succès. Et que vont-ils faire? Ils vont essayer de séduire les élus. Et vraiment, Je crois que ce texte est une mise en garde pour nous, l'Église, pour ne pas nous laisser séduire. Une séduction, c'est faire croire que Jésus est là, il est ici, alors que ce n'est pas le cas. Ou qu'il est là. Ils essaieront donc de séduire même les élus, donc même l'Église, en disant de Jésus, il est ici ou il est là. D'où la nécessité de nous tenir sur nos gardes, comme Jésus nous y invite lui-même. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, ces faux Christ et ces faux prophètes, pour essayer de nous séduire ? Par des signes extraordinaires et des miracles, qui viendront en fait de Satan. Et c'est clairement dit dans 2 Thessaloniciens, toujours chapitre 2, verset 9, qui suit un peu le passage que je vous ai dit tout à l'heure. 2 Thessaloniciens 2, 9, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mais un chrétien averti ne se laissera pas séduire par ces choses extraordinaires. Par pourquoi ? Parce que ça ne doit pas être les miracles qui doivent nous impressionner. Ce qui doit nous impressionner, c'est plutôt la fiabilité de la parole de Dieu qui nous avertit et qui nous donne les moyens de reconnaître les imposteurs. C'est ça qui doit nous impressionner. Ésaïe avait annoncé au serviteur Jésus plus de 700 ans avant sa naissance. Non, c'est plutôt la fiabilité de la parole de Dieu qui doit nous impressionner et qui nous avertit. Et c'est cette même parole qui nous donne les moyens de reconnaître les faux prophètes, les faux Christ, les imposteurs. Les faux prophètes, ils annoncent des choses fausses, des fausses dates, lorsque le Christ va revenir, ou ils prétendent que le jour du Seigneur est déjà là. C'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Et elle nous donne les moyens de reconnaître les faux prophètes. Elle nous donne les moyens de reconnaître les sectes en tout genre. Et il y a ce verset qui m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, dans ma vie. Lorsque je cherchais, je ne cherchais pas au bon endroit, mais vraiment ce verset que Dieu m'a donné m'a beaucoup aidé. Deutéronome 18, verset 22. Deutéronome 18, verset 22, pour reconnaître les faux prophètes. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. J'avais fréquenté une secte avant de devenir chrétien, il y a bien longtemps, dans les années 80, et ce verset m'a beaucoup aidé pour en sortir. Deutéronome 18, 22. Chez Marc, vu ce petit mot, le mot « après ». Chez Marc, c'est après cette grande tribulation, verset 24, que Jésus nous avertit des autres signes qui vont précéder son retour. Non seulement son retour, mais aussi l'enlèvement de l'Église. Après. Ces signes seront bien des miracles, ceux-là, mais des miracles que Satan ne peut pas imiter. Des signes qui auront lieu dans le ciel. Les étoiles tomberont, le soleil et la lune s'obscurciront. Les ténèbres. Les ténèbres vont envelopper non seulement la terre, mais aussi bien le jour que la nuit. Ténèbres complètes. Pour mieux contraster avec le retour du Christ, qui lui va être lumineux, va être glorieux, qui va venir. Spectacle extraordinaire du retour de Christ qui suivra. Extraordinaire. Il sera visible de tous. Tout œil le verra. Ça sera un retour qui ne se fera pas incognito. La seconde venue de Jésus le Nazaréen se fera dans toute sa gloire, contrairement à sa première venue qui s'est faite dans l'humilité, dans une simple étable. Il enverra des milliers d'anges pour rassembler ses élus glorifiés, c'est-à-dire nous, son Église, l'Église de tous les temps, avec l'Église de tous les temps, convertis avant la grande tribulation et aussi pendant la grande tribulation. Tous ceux, aussi bien juifs que non-juifs, qui l'auront reconnu comme Seigneur et Sauveur. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Et dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, eh bien, voici trois versets qui sont notre espérance, qui sont la conclusion, finalement, de ce monde. 1 Corinthiens 4, versets 16 à 18. 1 Thessalonicien, pardon, versets 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Verset 17 du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et verset 18, un verset merveilleux. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le retour du Seigneur ne doit pas nous faire peur si nous sommes ses enfants. Au contraire, c'est un sujet de consolation, de consolation. J'en viens à mon deuxième point. La parole de Dieu nous montre sa bonté et sa fidélité pour nous aider à veiller en espérance. La parole de Dieu nous montre sa bonté et sa fidélité pour nous aider à veiller en espérance. Ce qui nous donne l'espérance, c'est que ce que dit Jésus va s'accomplir. Premièrement, Jésus dit que toutes ses prédictions, ses prophéties, sans exception, s'accompliront en une génération. Verset 30. Ce qui doit être notre espérance, c'est que le mal qu'il y a dans notre monde, qui règne dans le monde, le mal aura une fin, parce que Dieu est bon et il tient toujours ses promesses. C'est sa parole qui nous donne l'espérance, et non seulement l'espérance, mais l'assurance qu'il revient et que son Église sera enlevée au ciel auprès de lui. Et donc cette espérance et cette assurance que nous donne la parole de Dieu, pour nous, son Église, doivent être plus fortes que les craintes, si crainte il y a, des signes que Jésus nous a annoncés précédant son retour. Ça doit être notre consolation. Comme ça a été la consolation des Thessaloniciens à l'époque de Paul. Paul écrivait déjà cela pour les Thessaloniciens. Et certains pensaient que le retour de Christ allait se produire déjà de leur époque. Mais ce texte était là pour les consoler déjà avant que ces événements ne se soient produits. Et c'est le cas pour nous. Ces passages sont là pour nous consoler, pour ne pas que nous ayons peur. Et puis aussi, la deuxième indication que nous donne Jésus, et qui est aussi une indication de sa bonté, je vais développer ça, c'est que, donc la deuxième indication que Jésus nous donne pour nous inciter à veiller, c'est que, verset 31, personne ne connaît le jour et l'heure de son retour. Pas même Jésus lui-même. Mais le Père seul. C'est étonnant. Ça peut paraître étonnant puisque Jésus est Dieu. Et Jésus, effectivement, restait pleinement Dieu. Même si certains ont utilisé ce verset pour nier sa divinité. Mais Jésus restait pleinement Dieu. Et pour nous en convaincre, le début du chapitre 13 que nous traitons aujourd'hui et que nous avons vu la fois dernière, au chapitre 3 du verset 13, le verset 3 nous apprend que Jésus raconte ces événements sur la fin des temps alors qu'il est assis où ça, sur le mont des Oliviers, face au temple. Le mont des Oliviers. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, chapitre 14, versets 3 et 4, il y a une prophétie qui parle du mont des Oliviers, qui se situe dans le mont des Oliviers, qui parle du retour de Christ. Et regardez, qui est-ce qui revient ? Zacharie 14, versets 3 et 4. Qui est-ce qui revient et où est-ce qu'il revient ? Zacharie 14, 3 et 4. L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour où il combat. Au jour de la bataille, ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Un verset qui montre la divinité de Christ. Jésus va revenir. L'Éternel lui-même posera ses pieds sur le mont des Oliviers, là où Jésus raconte ces événements à venir, face au temple, sur le mont des Oliviers. Alors évidemment, on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'il ne connaissait pas la date ? Lui qui est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Mais l'évangile de Marc, c'est l'évangile du serviteur. Et il nous rappelle que Jésus, il s'est fait le serviteur parfait de Dieu son Père. Il s'est fait le serviteur parfait de Dieu son Père. Jésus a toujours obéi parfaitement à son Père. Et Jésus nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, il nous dit cette parole. Il nous dit que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus a accepté de se rendre esclave. Lui, le Fils de Dieu, lui, l'héritier, il a accepté de se rendre esclave jusqu'à accepter que son père le traite comme un esclave, allant jusqu'à lui cacher la date de son retour. Jésus n'a pas revendiqué. Il a accepté que son père lui cache cette date. Pourquoi ? Par amour pour nous, pour nous inciter à veiller, pour susciter en nous une attente constante et persévérante chez ses disciples et chez toute son Église. Sujet d'espérance donc pour nous, qui montre la bonté et la fidélité de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les souffrances sont normales pour le chrétien. Vous en avez traversé. Peut-être vous en traversez. Il y en aura encore. Mais toujours dans les limites fixées par Dieu. Et ce qui doit aussi nous encourager, c'est que même si les temps s'annoncent difficiles pour les élus, qui seront encore présents sur terre à l'époque de la grande tribulation, eh bien Dieu va montrer encore sa bonté et sa fidélité dans ce qu'il va fixer des limites à ce que peuvent supporter ces élus qui seront à ce moment-là présents. Il y aura des limites. Verset 20, je vous le relis du chapitre 13 de Marc. « Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Autant de signes de la bonté de Dieu ne permettra pas que ça aille au-delà de ce qu'on peut supporter. Autre marque de sa bonté et de son amour, eh bien c'est sur cette parole même. Ces prophéties, ces prédictions même de Jésus sont une autre marque de sa bonté et de son amour. Verset 23, Jésus dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. » On n'est pas pris par surprise. Le Seigneur Jésus annonce à l'avance ses jugements pour ne pas que nous nous laissions surprendre, mais toujours pour que nous l'attendions avec persévérance. Et ça a été aussi le cas dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait toujours ses prophètes pour qu'ils avertissent son peuple d'un jugement certain à venir s'ils ne revenaient pas de leur mauvaise voie. Certains y voient l'image d'un Dieu vengeur, guerrier. Voyons-y plutôt un Dieu à la fois juste, bon et amour, qui avertit et qui donne la possibilité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il nous aime. Dans l'Ancien Testament, nous lisons effectivement cette parole dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. Amos 3, 7. Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'est pas pris par surprise, parce que Dieu est bon. Ici, dans Marc, ce ne sont pas des prophètes porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, un envoyé de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes porte-parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu même, incarnée en Jésus, qui parle et qui avertit non seulement Israël, mais le monde entier des jugements à venir. D'où l'importance de prêter du poids à ces paroles. Alors oui, il y a ce flou encore, et c'est la parole le veut ainsi. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et Jésus nous dit qu'il peut revenir le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 35. Pour nous tenir éveillés. On n'est pas loin de la nuit là. Hein. Le soir, milieu de la nuit, chant du coq, à l'aube, ou le matin. Mon troisième point, eh bien, puisque Jésus nous exhorte, nous incite à veiller, eh bien, il nous dit aussi comment nous pouvons veiller. La parole de Dieu nous dit comment nous devons veiller. Alors, il y a plusieurs applications dans ce point pour nous, hein. En s'arrêtant précisément à ce texte-là, dans cet évangile, Marc ne précise pas dans quel livre le lecteur doit faire attention. Que le lecteur fasse attention. Il ne précise pas dans quel livre, alors que dans Matthieu, nous savons que c'est dans le livre de Daniel. Ici, Marc ne précise pas dans quel livre le lecteur doit faire attention. Alors, de cette manière, eh bien, en fait, puisque le lecteur doit faire attention, c'est le lecteur de la parole de Dieu qui doit faire attention, le lecteur de toute la Bible. Il nous invite à tenir compte de toute l'écriture, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et bien sûr, il nous invite à tenir compte de son évangile. Jésus citait le prophète Daniel, donnant ainsi toute sa crédibilité à l'Ancien Testament. Et il nous invite à le faire et à le lire avec autant de sérieux que nous lisons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est pour nous aussi. Alors, comment veiller? Eh bien, premier sous-point, comment est-ce que nous pouvons veiller? En lisant la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, chaque jour. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, si vous avez un plan de lecture qui vous y aide, ça peut vous aider. Moi, j'aime bien prendre du début à la fin, à chaque fois, lorsque j'ai fini, je reprends au début. En tout cas, il y a plusieurs manières. Donc, comment veiller déjà en lisant la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et pas juste les versets que nous aimons. Autre application pour nous, les chrétiens. Puisque Jésus parle de l'abomination de la désolation, être là où elle ne doit pas être, sans donner plus de précision, vous avez remarqué, eh bien, il ne parle pas seulement du temple de Jérusalem. Nous pouvons y voir un principe qui s'applique à chaque croyant. Le lieu symbolise la présence de Dieu, là où l'abomination ne doit pas être. C'est là où il y a la présence de Dieu. Le lieu symbolisant la présence de Dieu ne doit certainement pas abriter le mal. Autrement dit, le mal ne peut pas cohabiter avec le bien, ce qui est vrai dans nos vies. Ne permettons pas au péché de s'installer dans notre vie. Pourquoi ? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Le corps même du croyant est le temple du Saint-Esprit. Ne laissons pas le péché, le mensonge, une mauvaise habitude s'installer dans nos vies. C'est incompatible avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu dans nos vies. Ça, c'est l'autre application. Encore une autre application. Comment veiller? Jésus dit de ne pas regarder en arrière. En ne regardant pas en arrière, est-ce que vous regrettez votre vie passée? Êtes-vous tenté de retourner à vos anciennes habitudes ou à votre cœur? Êtes-vous plus attaché à ce que vous avez laissé en arrière qu'à ce que Dieu veut vous offrir aujourd'hui et demain? Notre monde est en train de changer et de changer rapidement. Les choses du passé sont en train de disparaître. Aussi bien la mode que la musique, que un certain style de musique, que les mentalités même, que les valeurs même. Alors, ne nous y attachons pas. Les Juifs, eux, ils étaient très attachés au temple, très attachés au temple de Jérusalem. Et en ce temps-là, les Juifs présents, pendant la grande tribulation, ils auraient à faire un choix entre tolérer l'abomination de la désolation dans le temple ou fuir et regarder en avant sans regarder en arrière. Regarder en avant vers un avenir meilleur, celui de la Jérusalem céleste. Ils auront un choix difficile à faire. C'est très difficile aujourd'hui pour un juif de devenir chrétien, de se convertir. Et ça le sera sans doute encore plus demain. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent d'être reniés par toute leur famille. Et c'est très difficile. Et que risque-t-il aussi ? Il risque de subir ce que Jésus a subi. Jésus était juif. Il risque de subir les mêmes persécutions qu'a subi Jésus. Le verset 9 du chapitre 13, qu'on a abordé la fois dernière, reprend des persécutions que Jésus lui-même a subies. Si ce passage est là, je crois que, ça peut aider les Juifs à se tourner vers le Christ en les avertissant. Jésus a déjà prévu ces difficultés. Ça peut aider les Juifs à se tourner vers Christ et à ne pas rester dans un endroit où ils ne sont pas censés rester. Autre application maintenant. On peut veiller aussi, non seulement en lisant la parole de Dieu, non seulement en ne regardant pas en arrière, non seulement en ne tolérant pas le péché s'installer dans nos vies, mais on peut aussi veiller en priant. En priant. Jésus nous dit de prier. Il nous dit, vous avez remarqué, il nous dit de prier que ces événements en Judée n'arrivent pas en hiver. Très dur pour les femmes enceintes. Alors, il y a deux choses ici. La date du retour de Jésus, elle est immuable. Elle ne changera pas. Dieu l'a fixée. Dieu ne repousse pas la date du retour de son fils. Elle est fixe. Maintenant, il y a des choses qui peuvent changer. C'est tout ce qui va précéder la date de son retour. Et c'est pour ces choses, pour ces choses qui précéderont son retour que Jésus nous demande de prier, parce que ces choses-là peuvent changer. Elles peuvent changer. Et nous sommes invités à prier pour qu'elles changent. Qu'est-ce que c'est qui peut changer? Peut-être, je ne sais pas si vous croyez encore qu'un juif peut se convertir. Eh bien oui, ce qui peut changer, c'est que des juifs peuvent se convertir. Et ils ont besoin de nos prières pour cela. On peut prier pour la conversion d'Israël. Regardez ce que dit 2 Pierre 3, verset 9, chapitre 3, verset 9. Et c'est très clair, hein, la date, elle est fixée, la date de son retour. Mais ce qu'il y a avant peut changer. Regardez, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Tous, ça veut dire aussi les Juifs. Aussi bien ceux de nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur, aussi bien nos contacts de travail. Il veut que tous arrivent à la repentance. Donc ça peut changer. Il le veut. Alors nous pouvons prier que sa volonté soit faite. On peut donc veiller en priant. En priant. Tout ce qui précède le retour de Christ. Ne croyons pas que c'est de la fatalité. Les choses peuvent changer. Et nous sommes impliqués dans l'œuvre de Dieu en priant. Nous pouvons prier. Ne nous relâchons pas. Même pour ce qui semble impossible. Mais pas pour Dieu, c'est pas impossible pour le Seigneur. On a déjà vu plusieurs manières de prier, de veiller. Est-ce qu'il en reste encore? Oui. Y a-t-il encore une autre manière de veiller? Pour répondre à cette question, quelles autres manières de veiller nous reste-t-il? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose de plutôt poser la question inverse. Comment s'endormir? Comment s'endormir? Comment arrêter de veiller? Rien de plus facile. Ne venez plus à l'église. Arrêtez de lire votre Bible. Arrêtez de prier. Ne luttez plus contre le péché. Négligez votre salut et votre héritage en Christ. Noyez vos soucis dans un excès de travail ou de loisirs. Cédez à la paresse. Arrêtez de servir dans l'église. Voilà, si vous voulez vous endormir, c'est très simple. Alors comment veiller? Eh bien, la dernière exhortation, et qui est dans ce texte, hein, c'est de travailler. C'est de travailler pour ne pas nous relâcher. Nous avons tous une responsabilité. Nous sommes tous responsables. Jésus termine son discours par une courte parabole. C'est celle d'un maître de maison qui part en voyage et qui a laissé la responsabilité de sa maison à ses serviteurs, chacun ayant reçu sa tâche, un ouvrage précis à accomplir selon les dons qu'il a reçus. On n'a pas tous reçu la même œuvre. Alors, quelles sont ces œuvres? Eh bien, il y a des tâches qui sont extérieures à l'Église. Et bien sûr, voyons-y principalement l'évangélisation, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'évangélisation. La tâche principale, le travail principal consiste à l'extérieur de l'Église, consiste à évangéliser. Et bien sûr, il y a les services, on peut servir dans l'Église. Il y a moult possibilités de servir dans l'Église. Et si vous avez envie de servir, parlez-nous-en. Vous avez une liste des services, je ne vais pas la prendre maintenant, mais je vous donne la référence. Une liste des services dans l'Église dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Puis Jésus termine. Jésus donne la consigne au portier de veiller. De veiller sur sa maison. Et il termine ce que je vous dis, je le dis à tous. C'est-à-dire à l'Église depuis qu'elle existe. Il le dit donc à nous. Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. Veillez. C'est la dernière recommandation d'un être cher pour ses bien-aimés, pour nous, avant de disparaître. Puisque ce qui va suivre, eh bien, ça sera effectivement sa crucifixion. Dernière recommandation d'un être cher avant de disparaître. Mais Jésus revient. Jésus revient. Pour terminer, vous avez entendu parler, bien sûr, hein, du cyclone Chido qui s'est abattu sur Mayotte en une nuit, la semaine dernière. Nous connaissons, nous avons des amis qui sont partis là-bas depuis peu, hein, pour être de notre précédente église, le BTM, enfin précédente, à Toulouse. Nous les connaissons et ils sont partis en famille pour travailler là-bas. Donc ils nous envoient régulièrement des textos, des photos. Et le matin où le cyclone s'était abattu, enfin il était en train de s'abattre, à 4h23 du matin, heure locale, donc on a reçu un texto de nos amis missionnaires qui montrait l'œil du cyclone s'abattre exactement sur Mayotte. Et bien sûr, ils nous demandaient de quoi faire, de prier pour eux. Alors, les autorités avaient prévenu quand même. Les autorités avaient prévenu, la météo avait bien prévenu qu'il y aurait un cyclone. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les rafales atteindraient les 120 km/h. Elles ont atteint les 225 km/h. L'île a été complètement dévastée. Les rafales étaient complètement imprévisibles. Toute l'île a été dévastée. Imaginons si les autorités avaient su l'ampleur des dégâts bien à l'avance. Je crois que Mayotte ne serait pas dans cet état-là. S'ils avaient su, mais ils ne pouvaient pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais s'ils avaient su qu'il y aurait des rafales de 225 km/h, certainement qu'ils auraient fait, j'ose espérer qu'ils auraient fait le nécessaire pour évacuer l'île, ou du moins pour voir avec les pays avoisinants, s'ils l'avaient su à l'avance. Nous, eh bien, ça fait plus de 2000 ans que Jésus nous a avertis de la grande tribulation qui précédera son retour. On ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Lorsqu'elle arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière possible pour se mettre à l'abri. Les Maorés ont eu un peu de temps pour se préparer. Il y a quand même eu des victimes. Alors il est encore temps de se mettre à l'abri pour échapper à la colère de Dieu. Comment ? Eh bien, en acceptant son Fils, pour ceux qui ne l'ont pas fait, en acceptant son Fils Jésus, mort et ressuscité, pour le pardon de nos péchés. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-il arrivé à nos amis missionnaires ? On était vraiment dans l'attente. Eh bien, nous avons eu des nouvelles. Lorsque le réseau a été rétabli, ils nous ont envoyé une vidéo. Et on a appris qu'ils étaient sains et saufs. Toute leur famille. Ils nous ont envoyé une vidéo, et sur cette vidéo, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils nous ont montré une vidéo de l'église. Ils étaient en train de chanter. De chanter, après le cyclone. Il faisait nuit. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Dieu a gardé son église. Et il gardera son église. Dieu veille sur son église. Il veille sur son église, et il nous demande à nous de veiller. Amen. Je vais prier. Père Saint, je te remercie encore pour, Seigneur, ta bonté envers nous, qui nous avertit des choses à venir. Et tu nous invites, Seigneur, à nous plonger dans ta parole, même si, bien sûr, il y a des zones d'ombre que nous ne pouvons pas dire avec certitude, mais, Seigneur, elles sont là, ces zones d'ombre, pour nous inciter à veiller et à t'attendre. Seigneur, oui, comme elles étaient là déjà il y a 2000 ans, déjà pour l'Église primitive. C'est signe, ta parole, elle est encore là pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, que ton Église, nous maintenions en éveil, Seigneur. Tu sais combien l'ennemi veut nous séduire, Seigneur. Vraiment, donne-nous la clairvoyance pour ne pas tomber dans ces séductions, Seigneur. Ne pas, voilà, certains ont essayé ou vont essayer de se faire passer pour toi ou pour venant de toi. Mais donne-nous vraiment la clairvoyance pour reconnaître ce qui vient de toi, le prendre, et ce qui ne vient pas de toi, l'identifier et le rejeter. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous tenir éveillés. Merci, Père, nous avons tout ce qu'il faut dans ta parole. Tu nous as envoyé ton Fils, toute grâce, avec lui, pour tenir, Seigneur, pour persévérer, pour t'attendre. Alors, Seigneur, oui, je te demande cette grâce de nous garder fidèles. Déjà, nos frères et sœurs persécutés nous demandent de prier pour qu'ils restent fidèles. Seigneur, donne-leur de te rester fidèle et donne-nous à nous aussi de te rester fidèle dans les grandes et dans les petites choses que tu nous confies. Merci pour ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous nos infidélités et que, Seigneur, que, Seigneur, nous te reflétions dans nos vies, Seigneur. Et qu'on soit prêt, oui, qu'on soit prêt, Seigneur, à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. C'est par Jésus, ton Fils, que j'ai prié. Merci. Amen. Amen.